Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gones qui cause culture sur lyondemain.fr. Cette semaine, les Good Gones s'offrent un coup de jeûne, une cure de jouvence pop au milieu des objets qui nous rappellent nos jeunes années. Tam-tam, vinyle, magnétophone et mobylette, tout ici nous permet de regarder dans le rétro sans nostalgie, mais avec humour et précision historique. Nous sommes au musée urbain Tony Garnier et Gaëlle nous parlera de l'exposition « Les jours heureux, archéologie des Trente Glorieuses ». Au sommaire, un film et son réalisateur Stéphane Brézé évoquent pour nous son dernier long métrage « Un autre monde » avec Vincent Lindon et Sandrine Kiberlin, qui sortira en salle cette semaine, mercredi 16 février. On a aimé et on vous en parlera, et on vous parlera aussi de la bande-son signée Camille Rocailleux, un ancien du Conservatoire supérieur de Lyon. Pour suivre, Guillaume parlera de la programmation de la 16e édition du festival Les Champs de Mars, dans la métropole depuis 2007. Gaëlle coulera des jours heureux et nous dira comment l'exposition du musée Tony Garnier a réveillé ou non des souvenirs de son enfance. Nous terminerons par nos Gédéons, les incontournables du moment. Il y a quelques jours, j'ai vu en avant-première Un autre monde, le dernier film de Stéphane Brézé après La loi du marché et En guerre. C'est le dernier opus d'une trilogie consacrée au travail.
Pour construire votre film, vous avez rencontré énormément de cadres.
Ouais, je fais ça à chaque film. Moi, je suis finalement quelqu'un qui passe sa vie dans un bureau, dans mon bureau, derrière un ordinateur, à essayer de construire des histoires, mais encore faut-il avoir une matière qui soit suffisamment puissante et crédible. Et pour avoir cette matière, je vais rencontrer les gens. Alors je pars de l'intuition d'un endroit du monde qui est intéressant à regarder. Et puis ensuite, je vais, comme un journaliste, rencontrer les gens. Beaucoup, beaucoup. Donc là, en l'occurrence, j'ai rencontré des dizaines de cadres qui... des directeurs de sites industriels, des directeurs généraux qui m'ont raconté des histoires difficiles, compliquées, parfois douloureuses, qu'ils avaient vécues dans l'entreprise avec le sentiment finalement d'avoir été pris entre le marteau et l'enclume, le sentiment d'avoir été longtemps considéré comme on les a voulu pensants et aujourd'hui ils avaient le sentiment qu'on ne les voulait plus qu'exécutants. Et ce transfert-là a été source de grandes difficultés, de douleurs, et puis ça s'est mélangé avec la vie personnelle, et c'est toutes ces histoires qu'on m'a racontées que j'ai voulu raconter dans le film.
En tout cas, vous vous intéressez au travail, on l'a vu bien sûr avec les films précédents, on peut presque parler d'une trilogie avec En guerre, La loi du marché et aujourd'hui Un autre monde. Celui-ci, il est différent parce qu'il y a une part pour l'intimité du personnage que joue Vincent Lindon, qui est très importante. Et puis, bien sûr, il y a la superbe Sandrine Kiberlin, qui est magnifique et puissante aussi dans le film. Il y a vraiment ce contrepoint. Et je vous disais tout à l'heure, Un autre monde, pour moi, c'est les deux mondes qui s'opposent entre la cruauté de l'entreprise et cette forme de tendresse qui est entre les deux personnages.
Ouais, il y a de l'amour entre eux. Il y a beaucoup d'amour. Et pourtant, c'est un couple qui est en train de se séparer parce que c'est plus possible, parce que il a ramené depuis des années ses inquiétudes du travail à la maison. Donc sa femme lui dit, voilà, c'est terminé parce que le projet qu'on avait ensemble et qui faisait sens pendant des années, ça fait quelque temps qu'il ne fait plus sens. Donc je te quitte, non pas parce que je t'aime plus, non pas parce que tu t'es comporté comme un goujat ou qu'il l'aurait trompé à tour de bras. C'est je pars parce que ça ne fait plus sens. Et en même temps qu'elle dit ça, elle dit, mais j'ai 50 ans, j'en ai plus derrière que devant. Et elle dit, j'ai peur. Donc elle fait preuve là d'un courage colossal en faisant ça parce qu'elle prend une décision qui ne l'arrange pas. Mais elle quitte une situation qui est insupportable. Et ça fait partie des événements très puissants de sa vie qui vont aussi certainement l'obliger à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne sérieusement à l'endroit du travail. Mais effectivement, sont traités à peu près... À équivalence le monde du travail, le monde de sa famille, avec la porosité incroyable qu'il y a entre ces deux espaces. Alors d'abord, moi, je voulais sortir aussi d'une opposition que parfois je trouve qui est réelle, mais que je trouve parfois simpliste, une opposition de classe, quoi, des ouvriers qui sont certes les plus modestes d'entre nous et qui subissent de plein fouet certaines décisions économiques extrêmement brutales. Ils sont les premiers à les subir. Et ces injonctions de réduction de coûts et qui passent par des réductions de personnel sont portées par des cadres. La question, c'est de savoir si ces cadres sont tous si à l'aise que ça avec les décisions qui sont prises tout en haut. Moi, je parle d'entreprises. Hein, dans mes films, je parle de casse sociale dans des entreprises qui vont bien. Et ce qui est le cas, là, lui dirige un site industriel. Ce n'est pas sa boîte, hein, il ne l'a pas créé. C'est un salarié, c'est un manager, c'est un cadre d'un assez haut niveau. Il travaille à l'intérieur d'une entreprise de niveau mondial, quoi. Il y a des sites industriels comme ça, il y en a plusieurs en France, il y en a plein dans le monde, etc. Donc c'est une décision qui est prise. C'est clairement expliqué dans le film, c'est une décision boursière. Ce n'est pas lié à un dysfonctionnement de son site industriel. C'est clairement une décision boursière de réduction de coûts. Et dans cette réduction de coûts, il va falloir retirer des salariés. Le problème, c'est qu'on arrive au moment où on est à l'os, quoi, au moment de rupture, et au moment de rupture des corps, des têtes et aussi potentiellement de l'entreprise.
Vous parliez de grande solitude des cadres, et je crois que c'est le cas.
C'est un terme qui est souvent revenu dans les témoignages, et même, j'ai envie de dire, tout le temps revenu dans tous les témoignages de cadres que j'ai eus pour fabriquer le film. C'était ce sentiment de grande solitude à porter constamment, à supporter les injonctions, parfois, souvent contradictoires, qu'il devait porter avec, faire semblant qu'il portait avec conviction quelque chose. Et c'est quelque chose qui est, visiblement, je l'entends, extrêmement douloureux pour beaucoup de ces cadres.
Moi, j'avais envie qu'on parle de la musique. Camille Rocailleux a composé pour vous, il a fait le Conservatoire de Lyon, je le précise. Il a composé pour vous une bande originale absolument merveilleuse, avec un ajout enfin d'Anne Sylvestre, J'aime les gens qui doutent. J'aimerais que vous me parliez de l'importance de la musique dans vos films et aussi pour vous, à titre personnel, et on terminera là-dessus.
Moi, je construis la musique toujours pendant l'écriture du film. Pour moi, c'est une ligne d'écriture qui fait partie intégrante. C'est quelque chose qui peut s'exprimer, que je ne raconterai pas par l'image, que je ne raconterai pas par l'écrit, et qui vient... c'est mon troisième pied, quoi, voilà, sur lequel je construis. Moi-même, je ne suis pas du tout musicien. Je n'ai même pas tant qu'une culture de dingue en musique, mais au moment où je fabrique le film... là, je suis pas aux commandes des instruments, mais clairement, je suis en dialogue incessant pour construire la partition. Et là, le musicien, c'est Camille, mais il avait avec moi un interlocuteur précis du sens, et je lui ai demandé une partition qui avait à voir avec traduire une idée de tension intérieure du personnage, une idée d'enfermement intérieur du personnage. Et puis il a apporté quelque chose d'absolument sublime avec une voix lyrique qui vient par-dessus, qui vient peut-être révéler un espace, un paradis perdu chez ce personnage. En tout cas, c'est vrai qu'il a composé quelque chose d'assez puissant, juste, qui trouve sa place dans le film d'une manière assez incroyable. Et c'était ma première collaboration avec Camille, comme c'est le cas à chaque fois sur chacun des films, parce que j'ai fait 9 films et c'était avec 9 compositeurs différents. Je change à chaque fois de compositeur. En tout cas, je trouve que là, c'était une belle recrue quand même.
Merci beaucoup Stéphane Brisé. Je vous laisse... On poursuit notre émission, Guillaume, avec toi. Je le disais dans le lancement, c'est la 16e édition du festival Les Chants de Mars et la programmation a retenu ton ascension, me semble-t-il.
Alors la 16e édition, on l'espère, hein, parce que la dernière fois qu'on avait évoqué le festival Les Chants de Mars, eh bien, tout avait été annulé, je crois la veille ou l'avant-veille.
C'est vrai.
Donc c'est vrai que c'est un festival que l'on apprécie, hein. 16 années, c'est quand même pas rien. Donc cette année, Les Chants de Mars reviennent du 16 au 26 mars dans toutes les salles lyonnaises que l'on connaît bien, que je citerai tout à l'heure. Bon, c'est un festival qui a vu quand même des artistes confirmés et qui se sont confirmés par la suite. Donc un passage aux Chants de Mars est quand même un très bon signe, puisque je rappelle comme ça aux débeautés Miossec, Mathieu Bogers, Rodolphe Burger, Juliette Armanet, Lili Minanas, Edith Preto, Radio Elvis, Clara Luciani, tous ces artistes-là. Et puis donc Michel Clou et Pascal Boisise avec ce spectacle formidable à la ligne qui donc devait se jouer et qui a été annulé en 2020. En 2021, on a eu une version, on va dire, minimaliste en ligne avec des artistes principalement de la région. Et puis cette année, la programmation 2022 revient avec quand même des poids lourds puisque nous aurons le plaisir d'avoir une vingtaine d'artistes donc durant le festival avec donc Iseut qui vient jouer au festival Les Chants de Mars, qui avait annulé sa venue au festival Woodstower à la fin du mois d'août. Donc on est très heureux de voir Iseut, même si elle était venue au Théâtre de Villefranche, mais en solo. Et puis bien sûr on a Malik Joudi qui vient de sortir son nouvel album, on a Émilie March, on a Ours, on a Fiskara, Sarah Mikowski, Sirius, Olympe, bref un panel très large dans toutes les esthétiques musicales. Et puis bien sûr la part belle faite aux artistes de notre région. Je citais tout à l'heure Sarah Mikowski qu'on adore, ou Sirius dans le côté un petit peu dans le genre un peu hip-hop. Donc voilà, c'est vraiment un festival qui est un festival un petit peu pas comme les autres, qui est quand même centré sur la chanson en français. D'accord. Alors quand on dit la chanson en français, tout de suite on pense à la chanson française, n'est-ce pas un peu. Mais non, en fait, on voit qu'il y a beaucoup d'esthétiques très différentes. Et donc c'est ça qui est très intéressant. Je citerai peut-être un concert parmi d'autres. Je pensais à celui du vendredi 28 mars à la salle Molière, Malik Joudi, j'en parlais un instant, parce que son album est un petit peu différent de ce qu'il faisait précédemment. C'est moins tourné vers l'électro, plus épuré, c'est un peu plus peut-être
plus
accessible, voilà,
plus
accessible peut-être à un plus grand public. Et puis moi j'aime beaucoup sa première partie qui s'appelle Rosemary, qui est une jeune fille qui chante admirablement bien, qui est une pianiste aussi et qui est vraiment vraiment formidable. Vraiment un festival qui parcourt notre métropole, puisque je rappelle que les concerts ont lieu à la MJC du Vieux-Lyon, à la salle des Rancis, dans la salle d'À tout bout de champ, au Jack-Jack à Bron, à la salle Molière, à la MJC de Montchat, au CCO Jean-Pierre Lachaise, à la salle Port-Garcin, à Rieux, à la MJC au Totem Live, et puis pour les gros concerts, au Transborder. Très content que ce festival ait lieu, enfin. Je sais que c'est beaucoup de stress pour tous ceux qui sont autour de l'organisation de ce festival. Donc je rappelle les dates, du 16 au 26 mars.
Est-ce qu'on n'écouterait pas un petit Malik Joudi ?
En face à face, s'adresser juste quelques mots, juste en surface, s'adresser quelques mots, au fil des pages, on s'attache en quelques mots. Thank you.
On poursuit notre émission avec toi, Gaëlle. La question, évidemment, que j'ai envie de te poser, alors, heureuse ? Oui, il fallait vraiment que je la fasse, celle-là.
Très heureuse. Alors, je vais vous parler de l'exposition « Les jours heureux, archéologie des Trente Glorieuses » au musée urbain Tony Garnier. Les jours heureux, nous aimerions tant les vivre actuellement, mais l'expression va bien au-delà de cette invitation à la joie. Les jours heureux est le nom donné au programme du Conseil national de la Résistance en mars 1944. Le nouvel avenir pour la France passe par le retour à la nation des grands moyens de production, la maîtrise de l'énergie, Charbonnage de France, EDF et GDF sont créés, la nationalisation des banques et l'instauration de la sécurité sociale pour tous. Après-guerre, la France entre dans les fameuses 30 glorieuses. L'expression est célèbre, mais qui est son auteur ? Jean Fourastier. Avec cette formule, l'économiste français désigne la période de croissance et de prospérité depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au premier choc pétrolier, soit de 1947 à 1973. Visiter l'exposition « Les jours heureux » suscite chez certains une pointe de nostalgie. D'autres feront une découverte physique du monde raconté par leurs parents ou grands-parents. Enfin, certains noteront des similitudes avec notre période contemporaine. Saluons déjà l'incroyable investissement de la toujours sémillante Catherine Chambon, directrice du musée urbain Tony Garnier, qui, en amont de l'exposition, a fait un minutieux travail de collecte auprès des Lyonnais. Depuis un appel pour récolter d'innombrables cartes postales venant illustrer l'âge d'or des colonies de vacances et des congés payés. Petit rappel, hein, la troisième semaine de congés payés date de 56, bravo. Jusqu'à une collecte d'objets révélateurs des 30 glorieuses. Ainsi, un berceau et de nombreux jouets illustrent le baby-boom. Après-guerre, la politique nataliste se confirmera dans la formule « 10 millions d'enfants naissent en 12 ans ». À cette époque, hygiène, vaccination et antibiotiques font aussi reculer la mortalité infantile. La grande vague de nationalisation est lancée. J'ai déjà cité le secteur de l'énergie, mais 45 marque aussi la nationalisation de Renault, Berlier et Air France. Et pour ceux ne se déplaçant ni en voiture ni en avion, rouler en mob. La mob, soit la mobylette, un modèle figure dans l'exposition, est inventée par Motobécane en 49 et sera vendue à 14 millions d'exemplaires sur la période. 49, c'est aussi la fin des tickets de rationnement, tandis que 1950 institue le SMIG. 78 francs de l'heure pour combien d'heures travaillées par semaine ? 48. Dès 1960, une nouvelle société issue de baby-boom se profile avec d'autres modes de consommation. La physionomie de cette génération est nommée la nouvelle vague par François Giroux. Son expression sera d'ailleurs reprise par le cinéma à la fin des années 50. Et qu'achètent ces nouveaux consommateurs ? Entre autres, de multiples jouets que vous trouverez dans l'exposition. Lego, mille bornes, mécano, le cochon qui rit, Monopoly, et aussi le présentoir de petites voitures Nos Rêves. Nos Rêves comme nos rêves d'enfants. C'est une marque lyonnaise fondée en 1946. Nos Rêves est un anacyclique de Véron. Véron étant le nom de famille de ses fondateurs. Famille également fondatrice des voitures miniatures Majorette. Pendant les Trente Glorieuses, la liberté passe aussi par l'électroménager naissant. Arrêtez-vous bien devant l'incroyable lave-linge à manivelle. Tout en rondeur, il fait penser au design de la conquête spatiale avec le premier satellite Sputnik 1. Surtout, lisez bien l'irrésistible autre utilisation de l'engin tout rond. Certains y mettaient du lait et en tournant la manivelle, fabriquaient du beurre. Le lave-linge électrique s'impose plus à partir des années 60. Laver, soit, puis il faut repasser. Citons Calor, entreprise née à Lyon en 1917, qui fabrique le premier fer à repasser électrique européen. En plus du temps supplémentaire dédié aux loisirs, les Trente Glorieuses inaugurent aussi le temps des apparences. 1963, c'est l'année minceur. Avec le lancement des premiers régimes Weight Watchers en France et l'arrivée de la poupée Barbie de Mattel. Les ménages s'équipent pour le soin, qui implique également l'achat de l'implacable pèse personne. Le musée vous invite d'ailleurs à vous peser et à communiquer anonymement bien sûr, votre poids. Le soin, c'est aussi la salle de bain. En 46, seulement 5% des logements disposent d'une salle de bain. Cela monte à 30% en 62 et 70% en 75. Étant au musée Garnier, on peut insister combien Tony Garnier, architecte également hygiéniste, souhaitait systématiser la salle de bain dans les logements populaires. L'exposition « Les jours heureux » aborde aussi le renouveau architectural. Sachez que le 8e arrondissement de Lyon est créé en 58. C'est Pierre Bourdeix, élève de Tony Garnier, qui construit la mairie du 8e, ainsi que la salle des fêtes devenue théâtre puis maison de la danse. Emblématique bâtiment en forme de tambour, avec sa vaste rotonde vitrée qui repose sur de grands piliers en V. Et l'argent ? En 46, pour plus de 50% des Français, vivre heureux, c'est avant tout avoir de l'argent. Au sortir de la guerre, le bonheur est dans le blé. Le nouveau franc ou franc lourd entre en vigueur le 1er janvier 1960. Un nouveau franc vaut 100 anciens francs, ce qui fera transposer en anciens francs de nombreuses personnes stupéfaites de ne plus brasser de grandes sommes. Dans l'exposition, arrêtez-vous aussi devant Didi l'écureuil, la mascotte de la Caisse d'épargne. Le célèbre écureuil fut choisi suite à un concours ouvert aux prisonniers de guerre. Ce pauvre Didi, qui allait être mangé, fut sauvé grâce à son épargne, comprendre son garde-manger. La dernière partie de l'exposition est un cabinet de curiosités d'articles du quotidien aux couleurs flashy. La mode est aussi abordée avec les collants de la bonnetterie Dîmes, fondée en 53, la mini-jupe lancée par Marie Quant en 62 et le monokini en 64. Soit un peu de légèreté avant un montage vidéo d'images de Lina, qui présente aussi le temps des révoltes avec mai 68 et une intervention du commandant Cousteau. Déjà au début des années 70, il était un lanceur d'alerte quant à l'état des océans. Au printemps, le musée Tony Garnier va organiser des balades urbaines du patrimoine lyonnais des 30 Glorieuses. À noter aussi deux balles des jours heureux, les 13 et 14 mai prochains, en partenariat avec la Maison de la Danse, avec le chorégraphe Denis Plassard. L'exposition « Les jours heureux, archéologie des 30 Glorieuses » est à voir jusqu'au 18 décembre 2022. Plus d'informations sur museeurbaintonygarnier.com.
Merci beaucoup Gaëlle. On va terminer évidemment comme chaque semaine avec nos Gédéons. Guillaume, est-ce que tu veux commencer avec ta petite préconisation, ton petit coup de cœur ?
Alors mon coup de cœur cette semaine, c'est un disque bien sûr, mais un disque instrumental pour une fois.
Mais pas forcément, des fois tu viens avec
musique.
Des livres Guillaume.
C'est vrai que je viens avec des livres, je lis de temps en temps, ça m'arrive. Peut-être je lis le livre de la jungle ou le manège enchanté. Ou
Martine fait du camping.
Tout à fait. Non, mais un disque instrumental, pourquoi ? Parce que je trouve que dans le fracas du monde aujourd'hui, eh bien c'est bien de temps en temps de se poser. Et donc, il y a un artiste de notre région qui s'appelle Jean-Louis Prade, qui vient de sortir un nouvel album. Alors, il avait déjà fait des disques sous un autre nom, sous le nom d'Imago. Et donc là, il vient de sortir un nouveau disque qui s'intitule Reversed, donc renversé, et c'est vraiment renversant. Si vous avez besoin de vous calmer, de prendre du temps, voilà, c'est un disque instrumental, c'est un guitariste, et il a un son de guitare qui est assez extraordinaire, au point que il ne m'en voudra pas si je trahis un petit peu sa page Facebook. Il se trouve qu'un grand guitariste, Adrian Belew, qui a été guitariste pour Talking Heads, pour Frank Zappa, pour King Crimson, pour David Bowie, avec qui il est en contact, eh bien, lui a dit qu'il avait le plus beau son de guitare actuel. C'est vraiment, vraiment délassant. On a cette sensation vraiment qu'il est à côté de nous, on sent les cordes vibrer, on apprécie, vous savez, moi j'aime beaucoup quand on entend les doigts qui glissent sur les frettes de la guitare, cette sensation. Et puis en fait, il a cette capacité certes de jouer, mais de magnifier les silences. Et je pense qu'en ce moment, c'est important d'écouter les silences. Voilà. Donc je vous recommande cet album qui est disponible sur son Bandcamp. Donc si vous tapez Jean-Louis Prade Bandcamp Reversed, eh bien vous tomberez dessus. Ça coûte la modique somme de 13 euros. Vraiment, c'est un album extraordinaire, vraiment, j'insiste.
Alors on en écoute un extrait.
Tu
nous as fait très envie.
Et voilà. Et on va
fermer les yeux.
On va écouter un morceau que j'aime beaucoup qui s'intitule La fille du croque-mort.
Merci Guillaume, on vient d'écouter.
On vient d'écouter donc Jean-Louis Prade avec La fille du croque-mort, extrait de son nouvel album intitulé Reversed, qui est disponible sur Bandcamp et qu'il vous enverra pour la modique somme de 13 euros avec bonheur.
Merci beaucoup Guillaume. Gaëlle alors, ton coup de cœur du moment.
Alors mon Gédéon de la semaine est Les Fleurs du Bal. C'est la nouvelle et deuxième boutique de Francis Chaput-Deserville qui dirige depuis 2003 la librairie Le Bal des Ardents, dont l'entrée se fait en passant sous sa célèbre arche. Celui qui ne connaît pas le fameux arc plein cintre composé de livres assurant le rôle de claveau n'est pas lyonnais. Ouvert le 18 novembre dernier à deux pas de la librairie, soit toujours rue Neuve dans le premier arrondissement, Les Fleurs du Bal proposent un vaste choix d'occasions à la vente. BD, DVD, magazines et livres, depuis la littérature jusqu'aux essais, critiques littéraires, sciences humaines, mais aussi les beaux livres d'art et de cinéma. Le fond est ample. Les Fleurs du Bal proposent également des sérigraphies à la vente et mènent une programmation d'expositions temporaires. On souhaite un succès aussi durable à cette nouvelle boutique que celui du bicentenaire de la naissance de Charles Baudelaire que nous fêtons cette année. Les Fleurs du Bal évoquant en effet irrésistiblement l'écrivain. Les Fleurs du Bal, c'est donc 17 rue Neuve dans le premier arrondissement. Plus d'informations, lebaldesardans.com.
Merci Gaëlle. J'espère qu'on aura l'occasion d'ailleurs de recevoir son animateur, son fondateur. Ça serait avec grand plaisir qu'on parlera de ce nouveau lieu et aussi bien sûr du Bal des Ardents. Quelle merveilleuse librairie. Pour ma part, je vais terminer en évoquant Villeurbanne. En évoquant Villeurbanne, ville française de la culture 2022. Alors pourquoi parler de Villeurbanne? Tout simplement parce que beaucoup de personnes confondent le label ville française de la culture et ville européenne de la culture. Alors bon, on va revenir un petit peu là-dessus. Ville française de la culture et pas ville européenne de la culture, Villeurbanne 2022, distinction importante. Ce label consacrera une ville française entre 20 et 200 000 habitants tous les deux ans. Et ce label est censé stimuler la commande publique, lien entre la culture et le tourisme, mettre l'accent sur une ville peu exposée médiatiquement. Ce n'est pas tout à fait le cas de Villeurbanne, mais en tout cas, Villeurbanne a été choisie pour représenter la première ville de ce concept. Villeurbanne est la première ville donc à recevoir ce label et a décidé d'orienter son action auprès des jeunes. Des mini-mix ont vu le jour dans des établissements scolaires, primaires et secondaires, faire émerger la création et initier des rencontres entre artistes au cœur des quartiers et auprès des scolaires, collégiens et lycéens. Ça, c'est la feuille de route. On attend de voir ce que ça va donner. Moi, j'avais envie de vous parler de Villeurbanne parce que j'avais envie de vous parler aussi de Valère Novarina, qui est à l'honneur en ce moment d'un lieu que j'adore, mais vraiment que j'adore, qui s'appelle l'Urdla. Alors l'Urdla, c'est un atelier de sérigraphie, un atelier de gravure qui est dans une ancienne usine et dans un lieu absolument incroyable qui est rue Francis de Pressensé, donc à Villeurbanne. Donc l'Urdla est un lieu donc hybride, à la fois atelier de production et outils de diffusion. Installé à Villeurbanne dans un édifice de près de 1000 mètres carrés, l'Urdla réalise un travail de mise en valeur et de conservation d'un savoir-faire artisanal depuis sa création en 1978. Donc l'exposition de Valère Novarina s'appelle L'inquiétude rythmique, une exposition que Valère Novarina, l'auteur bien sûr de théâtre bien connu, est également présent donc un de ses textes, Le jeu des ombres, en ce moment mis en scène par Jean Bellorini, qui est mis en scène en ce moment au TNP. Je le concède, l'écriture de Valère Novarina n'est pas facile, sa peinture ne l'est pas non plus, mais il était nécessaire pour moi de faire ce petit focus, d'abord aussi parce que le TNP, c'est une grosse institution de Villeurbanne, que Jean Bellorini est un nouveau directeur pour cette institution, et Valère Novarina est un incontournable du répertoire de la culture théâtrale contemporaine. Donc l'occasion de marquer également le centenaire de ce théâtre du TNP, qui n'a pas toujours été à Villeurbanne, mais qui a commencé à Paris. Et puis, la peinture de Novarina peut se regrouper sous une appellation, les logaèdres. Édres sont des mots, mais non alphabétisés, non domestiqués, comme il le dit, et alignés et au repos, comme dans le dictionnaire. Donc Novarina adore ça, puisqu'il ne ponctue pas en fait son théâtre. Hein. Ça ne doit pas être facile pour les comédiens. Hein. Il n'y a aucun point, aucune virgule. Hein. Donc les comédiens s'emparent du texte tel qu'il est. Donc on pense immédiatement aux acteurs qui peuvent jouer avec les peintures et le texte. Il y a le corps du livre et le corps du tableau. Voir Novarina peindre ou dessiner ou travailler, c'est être face à un corps qui se fait organe d'une langue. L'organe du langage, c'est la main. A-t-il pu dire. Donc on peut se demander à quelle langue prête-t-il son corps lorsqu'il peint, lorsqu'il dessine. L'exposition est à voir jusqu'au 12 mars à l'Urdla, donc ça vous permettra tout simplement de découvrir ce lieu magnifique au 207 rue Francis de Pressensé à Villeurbanne. Plus d'informations bien sûr sur le site de l'Urdla, urdla.com. Merci de nous avoir suivis cette semaine, à la semaine prochaine. J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaël Bossier-Lombard à retrouver sur liondemain.fr.